From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Diffusé depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Dieter Uhrdorf, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, en ce beau matin d'automne. Nous exprimons notre amour à Thomas Monson, le président de l'Église, qui est chez lui ce matin. Robert Hales, qui ne peut être présent aux sessions de cette conférence, est aussi dans nos prières. Nous adressons nos salutations aux personnes du monde entier qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. Nous saluons la présence des autorités générales et officiers généraux qui assistent à cette conférence ce matin. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg avec Andrew Unsworth et Claire Christensen à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Louange à Dieu » et interprétera à présent Saint en avant, armé de foi en Christ, le numéro 40 dans le recueil de cantiques français, puis Michael Ringwood, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture.
Thank you. Notre cher Père Céleste, nous nous réunissons ce matin, membres de l'Église. Nous te remercions pour qu'il y ait une espérance parfaite en l'expiation du Sauveur. Nous désirons te chanter des louanges à ton Fils. Et nous désirons aussi une portion de ton esprit. Nous prions pour avoir la force et la foi en toi et en ton Fils bien-aimé. Et que nous utilisions cette force et cette foi pour fortifier notre famille, la collectivité. Prions pour tes bénédictions et nous faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur va interpréter maintenant « Consider the Lilies ». Après ce chant, nous aurons le plaisir d'entendre Jean Bingham, présidente générale de la Société de secours. Elle sera suivie de Donald Armstrong, des 70. Après son discours, le chœur chantera « Peuple du monde, écoutez donc » le numéro 170 dans le recueil des cantiques français, puis David Bednar du Collège des 12 apôtres s'adressera à nous.
Mes frères et sœurs, c'est une grande joie d'être avec vous. Voici les gros titres d'un journal paru récemment. Les catastrophes secouent le pays et le monde. Des ouragans et des inondations, aux canicules et aux sécheresses, en passant par les incendies de forêt, les tremblements de terre, les guerres et les maladies dévastatrices, il semble que toute la terre est en tumulte. Des millions de personnes ont été déplacées, de nombreuses vies ont été bouleversées à cause de ces difficultés. Les querelles au sein des familles et des collectivités, ainsi que les combats intérieurs contre la crainte, le doute et les espoirs déçus, nous laissent aussi dans le désarroi. Il peut être difficile de ressentir la joie dont Léhi a dit qu'elle est le but de la vie. Nous nous sommes tous demandé à un moment ou un autre, où pourrais-je chercher la paix de l'âme? Où est le port? Comment trouver la joie malgré les difficultés de la vie ici-bas? La réponse peut paraître trop simple, mais elle a fait ses preuves depuis l'époque d'Adam. On trouve une joie durable en se concentrant sur notre Sauveur Jésus-Christ et en vivant l'Évangile comme il l'a montré et enseigné. Plus nous en apprenons sur Jésus-Christ, avons foi en lui et lui ressemblons, plus nous comprenons qu'il est la source de toute guérison, de toute paix et de toute progression éternelle. Il nous invite tous à aller à lui, invitation que le président Eyring a qualifiée de plus importante que quiconque puisse accepter. Comment allons-nous à lui? En avril dernier, Russell Nelson et Russell Ballard nous ont recommandé d'étudier le Christ vivant afin d'en apprendre davantage sur le Sauveur. De nombreuses personnes l'ont fait et ont été grandement bénies. Récemment, une de mes amies a donné à chacun de ses enfants adultes un exemplaire de cette déclaration accompagné d'images de l'Évangile pour illustrer chaque phrase. Elle a recommandé à ses enfants d'aider leurs enfants à le comprendre et à l'apprendre par cœur. Un peu plus tard, mon amie a publié une vidéo de sa petite fille de 6 ans, Lainey, en train de réciter de sa petite voix d'enfant sa version mémorisée avec enthousiasme et élégance. J'ai pris conscience que si une enfant de 6 ans pouvait le faire, je le pouvais moi aussi. Comme j'ai étudié avec plus d'attention la vie et les enseignements de Jésus-Christ et ai mémorisé le Christ vivant, ma reconnaissance et mon amour pour notre Sauveur ont grandi. Chaque phrase de cette déclaration inspirée contient un sermon et a approfondi ma compréhension de son rôle divin et de sa mission sur terre. Ce que j'ai appris et ressenti pendant cette période d'étude et de réflexion confirme que Jésus est véritablement la lumière, la vie et l'espoir du monde. Les Écritures anciennes et les paroles des prophètes modernes, écrites ou prononcées pour le louer, rendent témoignage que ces voies mènent au bonheur dans cette vie et à la vie éternelle dans le monde à venir. Si vous étudiez la vie du Christ et ses enseignements de multiples façons, votre foi en lui augmentera. Vous saurez qu'il vous aime personnellement et vous comprend parfaitement. Pendant ses 33 ans dans la condition mortelle, il a subi le rejet, la persécution, la faim, la soif et la fatigue, la solitude, la violence verbale et physique. et à la fin, une mort atroce entre les mains des pécheurs. Dans le jardin de Gethsémané et sur la croix du calvaire, il a ressenti toutes nos souffrances, nos afflictions, nos tentations, nos maladies et nos infirmités. Quelles que soient nos souffrances, il est la source de guérison. Les personnes qui ont connu des sévices, sous quelque forme que ce soit, le deuil accablant, la maladie chronique ou des afflictions débilitantes, les fausses accusations, la persécution brutale, les dommages spirituels découlant du péché ou l'incompréhension peuvent toutes être guéries par le Rédempteur du monde. Mais il n'entrera pas sans y être invité. Nous devons aller à lui et lui permettre d'opérer ses miracles. Un magnifique matin de printemps, j'avais laissé la porte ouverte pour profiter de l'air frais. Un petit oiseau est entré puis s'est rendu compte qu'il ne se trouvait pas là où il voulait être. Il volait désespérément à travers la pièce, se cognant encore et encore contre la fenêtre dans ses tentatives pour s'échapper. J'ai essayé de le guider doucement vers la porte ouverte, mais il avait peur et n'arrêtait pas de s'envoler. Il s'est finalement posé en haut des rideaux, désorienté et épuisé. J'ai pris un balai et j'ai approché tout doucement la brosse de l'endroit où il s'était perché. Tandis que je tenais le balai à proximité de ses pattes, l'oiseau est monté dessus avec hésitation. Doucement, tout doucement, je suis allé jusqu'à la porte ouverte en maintenant le balai le plus immobile possible. Dès que j'ai atteint la porte ouverte, l'oiseau a pris rapidement son envol vers la liberté. Comme cet oiseau, nous avons parfois peur de faire confiance parce que nous ne comprenons pas l'amour absolu de Dieu et son désir suprême de nous aider. Mais lorsque nous étudions le plan de notre Père Céleste et la mission de Jésus-Christ, nous comprenons que leur unique objectif est notre bonheur et notre progression éternelle. Ils se réjouissent de nous aider lorsque nous demandons, cherchons et frappons. Lorsque nous faisons preuve de foi et nous ouvrons humblement à leurs réponses, nous nous libérons des contraintes de notre incompréhension et de nos doutes, et ils peuvent nous montrer le chemin à prendre. Jésus-Christ est aussi la source de la paix. Il nous invite à nous appuyer sur son bras puissant et nous promet la paix qui surpasse toute intelligence, sentiment qui nous vient lorsqu'on son esprit apaise notre âme, quelles que soient les difficultés qui nous entourent. Qu'il s'agisse de difficultés personnelles, de problèmes familiaux ou de crises communautaires, la paix viendra en faisant confiance au Fils unique de Dieu qui a le pouvoir d'apaiser les âmes en peine. Snježana Podvinsky, l'une des quelques saints de Karlovac en Croatie, s'est appuyée sur le Sauveur lorsque son mari et ses parents sont décédés en l'espace de 6 mois l'année dernière. Accablée par le chagrin, mais possédant le témoignage que la famille est éternelle, elle a dépensé toutes ses économies pour se rendre au temple de Suisse où elle a été scellée à son mari et à ses parents. Elle a dit que ses journées au temple ont été un moment marquant de sa vie. Grâce à son témoignage ferme de Jésus-Christ et de son expiation, elle a ressenti la paix et connu la guérison, ce qui a aussi fortifié son entourage. La foi en Jésus-Christ est la source d'autres dons que la guérison et la paix. Le président Ehring a dit « J'ai été reconnaissant des nombreuses manières dont le Seigneur m'a visité par le Consolateur lorsque j'avais besoin de paix. Pourtant, notre Père Céleste ne se soucie pas uniquement de notre confort, il se soucie davantage encore de notre progression. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ qui comprend les dons de la rédemption et de la résurrection, nous pouvons nous repentir, changer et progresser éternellement. Grâce au pouvoir qu'il nous donne lorsque nous sommes obéissants, nous pouvons nous développer davantage que nous ne le pourrions tout seuls. Nous ne comprenons peut-être pas totalement comment, mais tous ceux d'entre nous qui ont senti grandir leur foi en Christ ont aussi reçu une plus grande compréhension de leur identité et de leur destinée divine, ce qui les a conduits à faire des choix conformes à cette connaissance. Malgré le monde qui essaie de nous abaisser au niveau des animaux, notre connaissance que Dieu est notre Père nous assure que nous avons un potentiel divin et une promesse royale. Malgré le monde qui nous dit que la vie est sans issue, notre connaissance que le Fils unique de Dieu a permis que nous soyons rachetés et ressuscitions nous donne l'espoir d'une progression éternelle. En apprenant davantage sur Jésus-Christ, nous acquérons une plus grande foi en lui et nous voulons naturellement suivre son exemple. Le respect de ses commandements devient notre plus grand désir. Notre cœur aspire à soulager la souffrance des autres, comme il l'a fait, et nous voulons qu'ils connaissent la paix et le bonheur que nous avons trouvé. Pourquoi est-il si important d'essayer de faire ce qu'il a fait? Parce que lorsque nous mettons notre foi en action, le Saint-Esprit rend témoignage de la vérité éternelle. Jésus commande à ses disciples de respecter ses commandements, parce qu'il sait que si nous suivons son exemple, nous commencerons à connaître la joie, et que si nous continuons sur ce chemin, nous atteindrons une plénitude de joie. Il a expliqué, « Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Notre témoignage est-il édifié sur le fondement de Jésus-Christ et de son Évangile? Lorsque les tempêtes de la vie nous assaillent, cherchons-nous frénétiquement un guide pratique ou un message sur Internet pour nous aider? En prenant le temps d'édifier et de renforcer notre connaissance et notre témoignage de Jésus-Christ, nous récolterons d'abondants dividendes pendant les périodes d'épreuves et d'adversité. La lecture quotidienne des Écritures et la méditation sur les paroles des prophètes vivants, les prières personnelles sincères, la participation attentive à la Sainte Cène chaque semaine, le service rendu à la manière du Seigneur, toutes ces choses simples deviennent les composants de base d'une vie heureuse. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? La vue de vos êtres chers à la fin d'une longue journée? La satisfaction d'un travail bien fait? La lumière dans les yeux de la personne que vous aidez à porter son fardeau? Les paroles d'un cantique qui vous touchent profondément? La poignée de main d'un ami proche? Prenez un moment pour réfléchir à vos bénédictions, puis trouvez le moyen d'en faire profiter les autres, en tendant la main afin de servir et d'édifier les frères et sœurs de votre quartier ou du monde entier. Vous connaîtrez davantage de paix, de guérison et de progression. Allez à lui. Je témoigne que si vous mettez Jésus-Christ au centre de votre vie, vous trouverez de la joie dans votre situation, quelle qu'elle soit. La réponse se trouve vraiment auprès de notre frère aîné. Prenons le temps d'apprendre à connaître Jésus-Christ par l'étude diligente, en acquérant une plus grande foi en lui et en nous efforçant de devenir davantage semblables à lui. Ce faisant, nous aussi serons poussés à dire « Dieu soit loué pour le don sans pareil de son Fils divin, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. »
Il y a un an, lors d'une mission en Californie, je me suis rendu avec un président de pieux chez Clark et Holly Fales et leurs enfants. On m'a dit qu'ils venaient de vivre un miracle. Quand nous sommes arrivés chez eux, Clark avait des difficultés à se tenir debout pour nous accueillir, car il portait une attelle dorsale, une minerve et des attelles au bras. 2 mois auparavant, Clark et son fils Ty, ainsi qu'une trentaine d'autres jeunes gens et leurs dirigeants, avaient participé à une activité de pieux consistant en l'ascension du mont Shasta, l'un des sommets les plus élevés de Californie, haut de 4322 mètres. Au deuxième jour de cette randonnée laborieuse, la plupart des grimpeurs avaient atteint le sommet, un formidable exploit réalisé grâce à des mois de préparation. Clark était l'un des premiers à atteindre le sommet. Après une petite pause près du bord, il s'est levé pour marcher un peu. Il a alors trébuché et chuté en arrière du bord d'une falaise. Il a d'abord fait une chute libre de 12 mètres pour dévaler ensuite le long d'une pente gelée sur 80 mètres. Il a miraculeusement survécu, mais il était grièvement blessé et incapable de bouger. C'était le premier d'une série de miracles que Clark allait vivre au cours de cette épreuve traumatisante. Parmi les premières personnes qui l'ont rejoint se trouvait, comme par hasard, un groupe de randonneurs, et parmi eux des guides secouristes de montagne et des spécialistes des urgences médicales. Ils se sont immédiatement occupés de Clark et l'ont couvert pour le garder au chaud. Comme par hasard, ce groupe était aussi en train de tester un nouveau dispositif de communication et a pu aussitôt envoyer une demande de secours, alors que les téléphones portables ne captaient aucun signal dans cette zone. Un petit hélicoptère stationné à 1 heure du mont Shasta a été immédiatement déployé. Après avoir effectué deux tentatives d'atterrissage sans succès, à une altitude qui dépassait les capacités de l'appareil, et lutté contre des vents dangereux, les pilotes ont fait un troisième et dernier essai. Tandis que l'hélicoptère approchait par un angle différent, comme par hasard, les vents ont changé, et l'appareil a pu atterrir juste le temps nécessaire au groupe pour installer avec peine Clark derrière le siège du pilote. Au centre de traumatologie, les examens de Clark ont révélé qu'il souffrait de plusieurs fractures au cou, au dos, aux côtes et aux poignets, et avait un poumon perforé et plusieurs coupures et éraflures. Comme par hasard, un chirurgien spécialiste des liaisons nerveuses réputé opérait ce jour-là dans cet hôpital alors qu'il n'y travaille que quelques jours par an. Plus tard, ce médecin a déclaré n'avoir jamais vu quelqu'un survivre à autant de blessures à la moelle épinière et aux artères carotides. Il ne s'attendait pas à ce que Clark vive ni à ce qu'il retrouve toutes ses fonctions normales. Le chirurgien qui se dit agnostique a déclaré que le cas de Clark défiait toutes ses connaissances scientifiques sur les blessures neurologiques et qu'il ne pouvait s'agir que d'un miracle. Quand Clark et Holly ont eu fini de nous raconter leur histoire époustouflante, j'avais du mal à trouver mes mots. Ce n'était pas simplement à cause de ces miracles évidents, mais aussi à cause d'un autre encore plus grand. J'ai eu la profonde impression, un témoignage personnel, que Holly et chacun des cinq magnifiques enfants assis dans la salle de séjour autour de leurs parents avaient une foi si grande qu'ils auraient accepté n'importe quelle issue ce jour-là et continué de progresser spirituellement. Clark et Holly, ainsi que les deux aînés de leurs enfants, Ty et Porter, sont parmi nous aujourd'hui au centre de conférence. En méditant sur l'expérience de la famille Fales, j'ai beaucoup réfléchi aux circonstances rencontrées par tant d'autres personnes. Qu'en est-il des innombrables saints des derniers jours, pleins de foi, qui reçoivent des bénédictions de la prêtrise, pour qui l'on prie sans relâche, qui respectent leurs alliances et qui sont remplis d'espoir, mais pour qui le miracle ne se produit jamais, du moins pas selon leur compréhension de ce qu'est un miracle, pas de la façon dont les miracles semblent se produire pour les autres. Qu'en est-il de ceux qui souffrent de profondes afflictions physiques, mentales et émotionnelles durant des années, des décennies, voire même toute leur vie ici-bas? Qu'en est-il de ceux qui meurent si jeunes? Il y a 2 mois à peine, 2 couples mariés détenteurs d'une recommandation à l'usage du temple, ayant à eux deux 3 enfants en mission à plein temps, ainsi que 5 autres enfants, ont décollé dans un petit avion pour un vol de courte durée. Je suis certain qu'ils ont dû prier avant le vol pour arriver sains et saufs, et prier encore avec ferveur lorsque leur avion a rencontré de graves problèmes mécaniques avant de s'écraser. Personne n'a survécu. Qu'en est-il d'eux? Est-ce que les personnes bonnes et leurs êtres chers ont raison de se demander comme Mormon, le jour des miracles a-t-il cessé? Mes connaissances limitées ne peuvent expliquer pourquoi, parfois, il y a une intervention divine et pourquoi, d'autres fois, il n'y en a pas. Mais peut-être ne comprenons-nous pas ce qu'est un miracle. Souvent, nous appelons miracle le fait de guérir sans explication médicale ou le fait d'échapper à une catastrophe après avoir suivi une intuition claire. Cependant, la définition d'un miracle comme un événement bénéfique provoqué par un pouvoir divin que les mortels ne comprennent pas nous apporte une perspective plus large de questions de nature plus éternelle. Cette définition nous aide aussi à voir le rôle essentiel de la foi dans l'obtention d'un miracle. Moroni a enseigné, et jamais personne, à aucun moment, n'a accompli de miracle si ce n'est après avoir eu la foi. Amon a proclamé, c'est ainsi que Dieu a fourni à l'homme le moyen d'accomplir par la foi de grands miracles. Le Seigneur a révélé à Joseph Smith, car je suis Dieu, et je montrerai des miracles à tous ceux qui croient en mon nom. Le roi Nebuchadnezzar a ordonné à Shadrach, Meshach et Abednego d'adorer la statue d'or qu'il avait élevés au rang de Dieu et les a menacés en leur disant, « Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés au milieu d'une fournaise ardente. » Puis il les a raillés en disant, « Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main ?» Ces trois disciples dévoués lui ont déclaré, « Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. » Ils étaient absolument certains que Dieu pourrait les sauver, sinon ils avaient entièrement foi en son plan. De même, David Bednar a posé un jour la question suivante à un jeune homme qui avait demandé une bénédiction. « Si c'est la volonté de notre Père Céleste que vous soyez transféré dans votre jeunesse par la mort au monde des esprits pour y poursuivre votre ministère, avez-vous la foi pour vous soumettre à sa volonté et ne pas guérir ? Est-ce que nous avons la foi de ne pas guérir de ce qui nous afflige sur terre afin de guérir dans l'éternité ? Une question cruciale à se poser est, où plaçons-nous notre foi ? Notre foi est-elle uniquement focalisée sur le désir d'être soulagé de nos douleurs et de nos souffrances ? Ou bien est-elle fermement centrée sur Dieu le Père et son saint plan, et sur Jésus le Christ et son expiation ? La foi en notre Père et en son Fils nous permet de comprendre et d'accepter leur volonté pendant que nous nous préparons pour l'éternité. Je vous témoigne aujourd'hui des miracles. Être un enfant de Dieu est un miracle. Recevoir un corps à son image et à sa ressemblance est un miracle. Avoir un sauveur est un miracle. L'expiation de Jésus-Christ est un miracle. La possibilité d'avoir la vie éternelle est un miracle. Bien que ce soit une bonne chose de prier et de faire ce qu'il faut pour être protégé et guérir physiquement durant notre existence mortelle, notre objectif suprême devrait être les miracles spirituels accessibles à tous les enfants de Dieu. Quelle que soit notre origine ethnique ou notre nationalité, quoi que nous ayons fait, si nous nous repentons, ou quoi qu'on ait pu nous faire, nous avons tous accès à ces miracles. Nous vivons un miracle et d'autres nous attendent encore. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Oh. L'un de nos grands combats de chaque jour consiste à ne pas permettre aux soucis du monde de contrôler notre temps et notre énergie au point de négliger les choses éternelles qui comptent le plus. Nos nombreuses responsabilités et nos emplois du temps surchargés détournent facilement notre attention, ce qui nous empêche de nous rappeler et de nous concentrer sur nos priorités spirituelles essentielles. Parfois, nous essayons de courir si vite que nous risquons d'oublier où nous allons et pourquoi nous courons. L'apôtre Pierre nous rappelle qu'en tant que disciple de Jésus-Christ, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ils deviennent participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Mon message souligne l'importance des très grandes et précieuses promesses décrites par Pierre, qui nous rappelle véritablement où notre voyage dans la condition mortelle nous conduit et pourquoi. Je parlerai aussi des rôles respectifs que jouent le jour du sabbat, le temple sacré et notre foyer pour nous aider à nous souvenir de ces importantes promesses spirituelles. Je prie sincèrement pour que le Saint-Esprit instruise chacun de nous tandis que nous réfléchissons ensemble à ces vérités importantes. Le grand plan du bonheur de notre Père Céleste contient la doctrine, les ordonnances et les plus grandes et les plus précieuses promesses par lesquelles nous pouvons devenir participants de la nature divine. Son plan définit notre identité éternelle et le chemin que nous devons suivre pour apprendre, changer, grandir et en fin de compte, demeurer avec lui pour toujours. La déclaration au monde sur la famille explique que tous les êtres humains, hommes et femmes, sont créés à l'image de Dieu. Chacun est un fils ou une fille d'esprit aimé de parents célestes et à ce titre, chacun a une nature et une destinée divine. Dans la condition prémortelle, les fils et les filles d'esprit connaissaient et adoraient Dieu, leur Père éternel. Ils acceptèrent son plan selon lequel ses enfants pourraient obtenir un corps physique et acquérir de l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser en fin de compte leur destinée divine en héritant la vie éternelle. Dieu promet à ses enfants que s'ils suivent les préceptes de son plan et l'exemple de son Fils bien-aimé, respectent les commandements et persévèrent avec foi jusqu'à la fin, alors, par la vertu de la rédemption du Sauveur, ils auront la vie éternelle, qui est le plus grand de tous les dons de Dieu. La vie éternelle est la plus grande et la plus précieuse des promesses. Nous comprenons plus complètement les très grandes et précieuses promesses et commençons à goûter à la nature divine en répondant positivement à l'appel du Seigneur, à la gloire et à la vertu. Comme le décrit Pierre, on remplit cet appel en s'efforçant d'échapper à la corruption qui est dans le monde. Quand nous allons docilement de l'avant en ayant foi au Sauveur, alors, du fait de son expiation et par le pouvoir du Saint-Esprit, un grand changement s'opère en nous ou dans notre cœur, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien. Nous sommes nés de nouveau, oui, nés de Dieu, changés de notre état charnel et déchu à un état de justice, étant rachetés par Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En général, un changement aussi complet de notre nature ne se produit pas rapidement ni d'un seul coup. Comme le Sauveur, nous ne recevons pas la plénitude dès l'abord, mais recevons grâce sur grâce. Car voici, ainsi dit le Seigneur Dieu, je donnerai aux enfants des hommes ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là, Et bénissons ceux qui écoutent mes préceptes et prêtent l'oreille à mes recommandations, car ils apprendront la sagesse. Dans ce processus continu de renaissance spirituelle, les ordonnances de la prêtrise et les alliances sacrées sont essentielles. Elles sont aussi le moyen que Dieu a choisi pour nous permettre de recevoir ses plus grandes et ses plus précieuses promesses. Les ordonnances que nous recevons dignement et que nous nous remémorons continuellement ouvrent les canaux célestes par lesquels le pouvoir de la divinité peut se déverser dans notre vie. Les alliances que nous honorons loyalement et que nous nous remémorons constamment nous donnent un but et l'assurance de bénédiction dans la condition mortelle et dans l'éternité. Par exemple, Dieu nous promet que selon notre fidélité, nous aurons la compagnie constante du troisième membre de la divinité, le Saint-Esprit, que grâce à l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons recevoir et conserver pour toujours la rémission de nos péchés, que nous pouvons recevoir la paix dans ce monde, que le Sauveur a rompu les liens de la mort et remporté la victoire sur le tombeau, et que la famille peut être ensemble pour le temps et pour toute l'éternité. Comme on peut le comprendre, les plus grandes et les plus précieuses promesses qu'offre notre Père Céleste à ses enfants ne peuvent être dénombrées ou décrites de façon complète. Cependant, même la liste partielle des bénédictions promises que je viens de présenter devrait nous faire tous nous émerveiller, nous prosterner et adorer le Père au nom de Jésus-Christ. Lorenzo Snow, ancien président de l'Église, a dit « Nous sommes trop enclins à oublier le grand but de notre vie, le motif pour lequel notre Père Céleste nous a envoyés ici dans la condition mortelle, de même que le saint appel que nous avons reçu. En conséquence, au lieu de nous élever au-dessus des petites choses transitoires, nous nous permettons trop souvent de descendre au niveau du monde sans recourir à l'aide divine, qui, elle seule, peut nous permettre de surmonter ces choses transitoires. » Le jour du sabbat et les temples sacrés sont deux sources spécifiques d'aide divine instituées par Dieu pour nous aider à nous élever au-dessus du niveau et de la corruption du monde. Dans un premier temps, nous pourrions nous dire que le but principal du respect du jour du sabbat et celui d'aller au temple sont liés mais distincts. Je crois cependant que ces deux buts sont exactement les mêmes et ils se conjuguent pour nous fortifier spirituellement, individuellement et en famille. Après avoir créé toute chose, le septième jour, Dieu s'est reposé et a commandé qu'un jour par semaine soit un jour de repos pour permettre aux gens de se souvenir de lui. Le sabbat est le moment de Dieu, un moment sacré, mis spécialement à part pour l'adorer, pour recevoir ses grandes et précieuses promesses et nous en souvenir. Dans notre dispensation, le Seigneur a commandé, afin de te préserver plus complètement des souillures du monde, tu iras en mon saint jour à la maison de prière et tu y offriras tes sacrements. Car en vérité, c'est ce jour qui t'est désigné pour que tu te reposes de tes labeurs et pour que tu présentes tes dévotions au Très-Haut. Ainsi, le jour du sabbat, nous adorons le Père au nom du Fils lorsque nous prenons part aux ordonnances et étudions comment recevoir, nous souvenir et renouveler nos alliances. En son saint jour, nos pensées, nos actions et notre attitude sont des signes que nous donnons à Dieu et un indicateur de notre amour pour lui. Le jour du sabbat a aussi pour but de nous aider à détacher notre regard des choses du monde et à l'élever vers les bénédictions de l'éternité. Loin des nombreuses routines régulières de notre emploi du temps chargé, nous pouvons, pendant ce moment sacré, regarder vers Dieu et vivre en recevant et en nous remémorant les grandes et précieuses promesses grâce auquel nous devenons participants de la nature divine. Le Seigneur a toujours commandé à son peuple de construire des temples, des lieux sacrés dans lesquels les saints dignes accomplissent des cérémonies et ordonnances sacrées de l'Évangile pour eux-mêmes et pour les défunts. De tous les lieux de culte, les temples sont les plus sacrés. Le temple est littéralement la maison du Seigneur, un espace sacré, mis à part spécifiquement pour adorer Dieu et pour recevoir ses grandes et précieuses promesses et nous les remémorer. Dans notre dispensation, le Seigneur a commandé « Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison qui sera une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison de connaissance, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. » Le but principal du culte au temple est d'accomplir des ordonnances et de nous enseigner comment recevoir et nous souvenir de nos alliances. Dans le temple, nos pensées, nos actes et nos vêtements diffèrent par rapport aux autres endroits que nous fréquentons. L'un des buts principaux du temple est de nous aider à détacher notre regard des choses du monde et à l'élever vers les bénédictions de l'éternité. Pendant un court moment, loin du cadre du monde qui nous est familier, nous pouvons regarder vers Dieu et vivre, en recevant et en nous remémorant les grandes et précieuses promesses grâce auxquelles nous devenons participants de la nature divine. Frères et sœurs, veuillez noter que le jour du sabbat et le temple sont respectivement un moment sacré et un espace sacré, mis à part spécifiquement pour adorer Dieu, pour recevoir et nous remémorer les plus grandes et les plus précieuses promesses faites à ses enfants. Tel qu'institué par Dieu, le but principal de ces deux sources d'aide divine est exactement le même. Concentrer notre attention de façon puissante et répétée sur notre Père Céleste, sur son Fils unique, sur le Saint-Esprit et sur les promesses associées aux ordonnances et aux alliances de l'Évangile rétabli du Sauveur. Il est important qu'un foyer soit l'association suprême de temps et d'espace dans lesquels les personnes et les familles se souviennent le mieux des grandes et précieuses promesses de Dieu. Quitter son foyer pour passer du temps aux réunions du dimanche et pour entrer dans l'espace sacré d'un temple est vital, mais pas suffisant. Ce n'est qu'en rapportant dans notre foyer l'esprit et la force qui proviennent de ces activités sacrées que nous pouvons rester concentrés sur les grands objectifs de la condition mortelle et surmonter la corruption du monde. Nos expériences du sabbat et du temple doivent être des catalyseurs spirituels qui imprègnent les personnes, les familles et notre foyer de rappels permanents des leçons apprises, de la présence et du pouvoir du Saint-Esprit, d'une conversion continue et de plus en plus profonde au Seigneur Jésus-Christ et d'une espérance d'une pureté parfaite dans les promesses éternelles de Dieu. Le jour du sabbat et le temple peuvent nous aider à établir dans notre foyer une voie par excellence si nous réunissons toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ce que nous faisons chez nous de son temps sacré et de ce que nous apprenons dans ces espaces sacrés est crucial pour devenir participants de la nature divine. Nous pouvons facilement nous laisser dominer par la routine et les préoccupations terre à terre de la condition mortelle. Dormir, manger, s'habiller, travailler, jouer, faire de l'exercice et de nombreuses autres activités ordinaires nécessaires et importantes. Mais à la fin, ce que nous devenons est le résultat de notre connaissance du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de notre disposition à les connaître. Ce n'est pas simplement la somme de nos occupations quotidiennes cumulées sur toute une vie. L'évangile est tellement plus qu'une liste de contrôles routinières d'activités discrètes à accomplir. C'est en fait une magnifique tapisserie de vérités bien coordonnées et entrelacées dont le but est de nous aider à devenir comme notre Père Céleste et le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire participants de la nature divine. En vérité, quand cette réalité spirituelle suprême est éclipsée par les soucis, les préoccupations et les frivolités du monde, nous sommes aveuglés car nous regardons au-delà du point marqué. Je vous promets que si nous faisons preuve de sagesse et demandons que le Saint-Esprit soit notre guide, il nous enseignera ce qui est vrai. Si nous nous efforçons d'accomplir notre destinée éternelle et de devenir participants de la nature divine, il témoignera du Christ, nous montrant sa volonté. Je rends mon témoignage que les plus grandes et les plus précieuses promesses associées aux ordonnances et aux alliances sont certaines. Le Seigneur l'a déclaré ainsi. Je vous donne des directives sur la manière dont vous pouvez agir devant moi, afin que cela tourne à votre salut. Moi, le Seigneur, je suis lié lorsque vous faites ce que je dis. Mais lorsque vous ne faites pas ce que je dis, vous n'avez pas de promesse. Je témoigne que notre Père Céleste vit et qu'il est l'auteur du plan du salut. Jésus-Christ est son Fils unique, notre Sauveur et Rédempteur. Il vit. Et je témoigne que le plan et les promesses du Père, que l'expiation du Sauveur et que la compagnie du Saint-Esprit rendent possible la paix dans cette vie et la vie éternelle dans le monde à venir. J'en rends témoignage au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs, vous allez vous joindre au chœur pour chanter Gloire au Dieu Tout-Puissant, le numéro 32 dans le recueil de cantiques français. Après le chant, nous entendrons Christopher Waddell de l'Épiscopat Président. Il sera suivi de Craig Swick, qui a été relevé de son appel de 70 autorités générales hier après-midi. Après le discours de Frère Swick, le chœur chantera « Aux bergers, elles sont chères », le numéro 142 dans le recueil de cantiques français. Vous assistez à la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Au printemps de 1998, Carole et moi avons pu combiner un voyage d'affaires avec des vacances en famille de quelques jours à Hawaï, avec nos quatre enfants et ma belle-mère qui avait récemment perdu son mari. La veille au soir de notre voyage à Hawaï, nous avons appris que Jonathan, notre fils de 4 ans, avait une double otite et qu'il ne pourrait pas prendre l'avion avant au moins 3 ou 4 jours. Nous avons décidé que Carole resterait à la maison avec Jonathan pendant que je ferais le voyage avec le reste de la famille. Le premier indice que ce n'était pas le voyage que j'avais envisagé est survenu peu après notre arrivée. Nous promenons au clair de lune sur un sentier bordé de palmiers, contemplant l'océan qui s'étendait devant nous, je me suis tourné pour commenter la beauté de l'île. Et à ce moment romantique, au lieu de voir Carole, je me suis retrouvé à regarder dans les yeux ma belle-mère, que, je précise, j'aime énormément. Ce n'était pas ce que j'avais attendu. Carole n'avait pas non plus prévu de passer ses vacances seule à la maison avec notre fils malade. Il y aura des moments dans notre vie où nous nous trouverons sur un chemin imprévu, rencontrant des circonstances beaucoup plus graves que des vacances bouleversées. Comment réagissons-nous quand des événements, qui souvent échappent à notre contrôle, modifient la vie que nous avions planifiée ou espérée? Le 6 juin 1944, Hiram Shumway, jeune sous-lieutenant de l'armée des États-Unis, a débarqué à Omaha Beach le jour J. Tout s'est bien passé lors de son arrivée, mais le 27 juillet, alors qu'il participait à l'avancée des Alliés, il a été grièvement blessé par l'explosion d'une mine anti-char. En un instant, sa vie et sa future carrière médicale ont été tragiquement affectées. Après de nombreuses interventions chirurgicales qui l'ont aidé à se rétablir de la plupart de ses graves blessures, frère Shumway n'a jamais retrouvé la vue. Comment allait-il réagir? Après 3 années de réadaptation passées à l'hôpital, il est retourné à Lovell, aux États-Unis. Il savait que son rêve de devenir médecin n'était plus réalisable, mais il était décidé à aller de l'avant, à se marier et à subvenir aux besoins d'une famille. Il a fini par trouver un travail à Baltimore, comme conseiller en réadaptation et spécialiste de l'emploi des non-voyants. Lors de son propre processus de réadaptation, il avait appris que les aveugles sont capables de beaucoup plus de choses qu'il ne l'avait pensé, et pendant ses 8 années à ce poste, il avait permis à davantage d'aveugles de trouver un emploi que tout autre conseiller du pays. À présent, confiant en sa capacité à prendre soin d'une famille, Hiram a demandé à sa bien-aimée de l'épouser en lui disant « Si tu lis le courrier, trie les chaussettes et conduis la voiture, je peux faire le reste. » Ils se sont mariés peu après au temple de Salt Lake City et ils ont eu la bénédiction d'avoir 8 enfants. En 1954, les Shumway se sont retournés au Wyoming où frère Shumway a été pendant 32 ans directeur de l'éducation des sourds et des aveugles de l'État. Au cours de la même période, il a été évêque de la première paroisse de Cheyenne pendant 7 ans et plus tard patriarche du Pieux pendant 17 ans. Après son départ à la retraite, frère et sœur Shumway ont été aussi couple missionnaire d'âge mûr dans la mission sud de Londres. Hiram Shumway est décédé en mars 2011, laissant derrière lui un héritage de foi et de confiance dans le Seigneur, même dans des circonstances difficiles, à une nombreuse postérité d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. La guerre a peut-être modifié la vie d'Hiram Shumway, mais il n'a jamais douté de sa nature divine et de son potentiel éternel. Comme lui, nous sommes des fils et des filles d'Esprit de Dieu et nous avons accepté son plan selon lequel nous pourrions obtenir un corps physique et acquérir l'expérience sur la terre de manière à progresser vers la perfection et réaliser, en fin de compte, notre destinée divine en héritant la vie éternelle. Aucun changement, aucune épreuve, ni opposition ne peut modifier ce processus éternel. Seuls nos choix le peuvent quand nous exerçons notre libre arbitre. Les changements et les difficultés qui en résultent, que nous rencontrons dans la condition mortelle, affectent chacun de nous de façon unique. Comme vous, j'ai des amis et des membres de ma famille. J'ai vu des amis et des membres de ma famille faire face à des difficultés causées par le décès d'un être cher, un divorce difficile, le fait de n'avoir jamais de possibilité de se marier, une maladie ou blessure grave, et même des catastrophes naturelles comme nous en avons récemment été témoins. La liste n'est pas exhaustive. Bien que chaque changement puisse dépendre de notre situation personnelle, un élément commun influence l'épreuve ou la difficulté qui en résulte. Le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ permet toujours l'accès à l'espoir et à la paix. L'expiation de Jésus-Christ apporte toujours les mesures correctrices et curatrices à chaque corps blessé, chaque esprit endommagé et chaque cœur brisé. Il sait, d'une façon que personne d'autre ne peut comprendre, ce dont nous avons besoin individuellement, afin d'aller de l'avant au milieu du changement. À la différence de nos amis et de nos êtres chers, le Sauveur ne se contente pas de compatir avec nous, mais il peut aussi nous comprendre parfaitement parce qu'il est passé par là. En plus de payer le prix et d'avoir souffert pour nos péchés, Jésus-Christ a aussi parcouru chaque chemin, affronté chaque difficulté, fait face à chaque souffrance physique, émotionnelle ou spirituelle que nous pouvons rencontrer un jour dans la condition mortelle. Boyd Packer a enseigné « La miséricorde et la grâce de Jésus-Christ ne se limitent pas aux personnes qui commettent des péchés, mais elles étendent la promesse de paix éternelle à toutes les personnes qui acceptent et suivent le Sauveur. Sa miséricorde est le puissant guérisseur, même des innocents blessés. » Dans la condition mortelle où nous sommes, nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive. Mais nous avons le contrôle absolu de la façon dont nous réagissons aux changements dans notre vie. Cela n'implique pas que les difficultés et les épreuves que nous rencontrons sont anodines ou faciles à gérer ou à résoudre. Cela n'implique pas que nous ne connaîtrons pas la douleur ou le chagrin. Cela signifie qu'il y a des motifs d'espérer et qu'en raison de l'expiation de Jésus-Christ, nous pouvons aller de l'avant et connaître des jours meilleurs, des jours pleins de joie, de lumière et de bonheur. Dans Mosia, nous lisons le récit d'Alma, l'ancien prêtre du roi Noé et son peuple qui, avertis par le Seigneur, partirent dans le désert devant les armées du roi Noé. 8 jours plus tard, ils arrivèrent dans un pays très beau et très agréable, où ils dressèrent leurs tentes et commencèrent à cultiver le sol et à construire des bâtiments. Leur situation semblait maintenant prometteuse. Ils avaient accepté l'évangile de Jésus-Christ. Ils avaient été baptisés, faisant ainsi alliance qu'ils serviraient le Seigneur et respecteraient ses commandements. Et ils se multiplièrent et prospérèrent extrêmement dans le pays. Cependant, leur situation allait bientôt changer. Une armée de l'Amanite se trouvait dans les régions frontières du pays. Alma et son peuple furent bientôt réduits en servitude, et leurs afflictions étaient si grandes qu'ils commencèrent à crier à Dieu avec ferveur. De plus, leurs vainqueurs leur interdirent de prier, et quiconque serait découvert à invoquer Dieu serait mis à mort. Alma et son peuple n'avaient rien fait pour mériter cette nouvelle situation. Comment allaient-ils réagir? Au lieu d'accuser Dieu, ils se tournèrent vers lui et lui déversèrent leur cœur. En réponse à leur foi et à leur prière, le Seigneur leur dit « Prenez courage, j'allégerai les fardeaux qui sont mis sur vos épaules, de sorte que vous ne pourrez plus les sentir sur votre dos. » Peu après, le Seigneur les fortifia, de sorte qu'ils purent supporter leurs fardeaux avec facilité. Et ils se soumirent de bon cœur, avec patience, à toute la volonté du Seigneur. Bien que n'étant pas encore délivrés de l'esclavage, en se tournant vers le Seigneur et non en se détournant de lui, ils reçurent des bénédictions correspondant à leurs besoins et conformes à la sagesse du Seigneur. Dallin Oakes a enseigné « Les bénédictions de guérison se produisent de toutes sortes de façons, chacune adaptée à nos besoins respectifs, tels que les connaît celui qui nous aime le mieux. » Parfois, une guérison traite notre maladie ou allège notre fardeau. Mais parfois, nous sommes guéris en recevant de la force, de la compréhension ou de la patience pour supporter les fardeaux qui nous sont imposés. Finalement, leur foi et leur patience étaient si grandes que le Seigneur délivra Alma et son peuple. Et ils déversèrent leurs actions de grâce à Dieu, car ils étaient dans la servitude. Et personne ne pouvait les délivrer si ce n'était le Seigneur, leur Dieu. L'ironie du sort est que, trop souvent, les personnes qui en ont le plus besoin se détournent de leur seule source parfaite d'aide, notre Sauveur Jésus-Christ. Le récit scripturaire bien connu du serpent des reins nous enseigne que nous avons un choix à faire face aux difficultés. Après que des serpents brûlants qui volaient eurent mordu de nombreux enfants d'Israël, une figure fut élevée afin que quiconque la regarderait vécût. Et beaucoup regardèrent et vécurent. Mais il y en eut beaucoup qui étaient si endurcis qu'ils ne voulurent pas regarder. C'est pourquoi ils périrent. Comme les Israélites de jadis, il nous est aussi recommandé de regarder vers le Seigneur et de vivre. Car son joug est doux et son fardeau léger, même quand le nôtre est lourd. Alma le jeune a enseigné cette vérité sacrée quand il a dit « Je sais que quiconque place sa confiance en Dieu sera soutenu dans ses épreuves et ses difficultés et ses afflictions et sera exalté au dernier jour. » En ces derniers jours, le Seigneur nous a fourni de nombreuses ressources, nos serpents d'airain qui sont toutes destinées à nous aider à regarder vers le Christ et à placer notre confiance en lui. Relever les défis de la vie ne veut pas dire ignorer la réalité, mais considérer ce sur quoi nous choisissons de nous concentrer et sur quelle fondation nous choisissons de construire. Ces ressources incluent notamment l'étude régulière des Écritures et des enseignements des prophètes actuels, la prière et le jeûne fréquent et sincère, le fait de prendre dignement la Sainte Cène, l'assiduité au temple, les bénédictions de la prêtrise, les conseils judicieux de thérapeutes compétents, et même les médicaments prescrits correctement et utilisés tels qu'ils sont autorisés. Quels que soient les changements qui surviennent, et quel que soit le chemin imprévu que nous devons emprunter, la façon dont nous y réagissons est un choix. Notre meilleure option consiste toujours à nous tourner vers le Seigneur et à saisir la main qui nous le tend. Richard Scott a enseigné cette vérité éternelle. Le bonheur véritable et durable, accompagné de la force, du courage et de la faculté de surmonter les plus grandes difficultés, s'obtient en centrant sa vie sur Jésus-Christ. Il n'y a pas de garantie de résultat immédiat, mais l'assurance absolue qu'au moment voulu par le Seigneur, des solutions se présenteront, la paix prévaudra et le vide sera comblé. Je vous témoigne de ces vérités. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Le roi lion est un célèbre dessin animé dont l'histoire se passe dans la savane africaine. Lorsque le roi lion meurt, en tentant de sauver son fils, le jeune prince lion est contraint à l'exil, tandis que le despote au pouvoir détruit l'équilibre de la savane. Le prince lion vient récupérer son royaume grâce à l'aide d'un mentor. Ses yeux s'ouvrent à la nécessité d'un équilibre dans le grand cercle de la vie dans la savane. Réclamant sa place légitime de roi, le jeune lion reçoit le conseil de regarder au-delà de ce qu'il voyait. L'Évangile nous permet de regarder au-delà de ce que nous voyons et nous enseigne comment hériter de tout ce que le Père a. Pour regarder au-delà de ce que nous voyons, nous devons regarder les autres à la manière du Sauveur. L'Évangile touche une grande variété de personnes. Nous ne pouvons comprendre parfaitement les choix et la psychologie des personnes que nous côtoyons dans notre monde, dans les assemblées religieuses et même dans notre propre famille, parce que nous avons rarement une vision complète de ce qu'ils sont. Nous devons regarder au-delà des préjugés, des stéréotypes et élargir la liste limitée de nos propres expériences. Alors que je servais comme président de mission, mes yeux ont été poussés à regarder au-delà de ce que je pouvais voir. J'ai vu un jeune frère missionnaire arriver avec beaucoup d'appréhension. Pendant notre entretien, il dit avec découragement, « Je veux rentrer chez moi. » Je me suis dit, « Eh bien, nous pouvons arranger ça. » Je lui ai conseillé de travailler dur et de prier à ce sujet pendant une semaine, puis de m'appeler. Une semaine plus tard, à la minute près, il m'a téléphoné. Il voulait toujours rentrer chez lui. Une fois encore, je lui ai conseillé de prier, de travailler dur, puis de m'appeler au bout d'une semaine. Lors de l'entretien suivant, rien n'avait changé. Il insistait pour rentrer chez lui. Mais je ne pouvais pas m'y résoudre. Alors, j'ai commencé à lui enseigner la nature sacrée de son appel. Je l'ai encouragé à s'oublier et à se mettre au travail. Néanmoins, quoi que je puisse dire, sa décision était inébranlable. Il m'est apparu que je ne devais avoir qu'une vision limitée du problème. Je me suis alors senti poussé à lui demander, « Frère, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?» Sa réponse m'a brisé le cœur. Mon président, je ne sais pas lire. Le sage conseil qu'il me semblait important qu'il entende ne répondait pas du tout à ses besoins. Ce dont il avait le plus besoin était que je mette mes jugements hâtifs de côté et laisse l'esprit m'éclairer sur ses véritables préoccupations. Il avait besoin que je le perçoive tel qu'il était et lui offre une raison d'espérer. Au lieu de cela, j'avais agi de manière autoritaire et destructrice. Ce vaillant jeune missionnaire a appris à lire et est devenu l'exemple même d'un disciple de Jésus-Christ. Il m'a ouvert les yeux aux paroles du Seigneur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Quelle merveilleuse bénédiction lorsque le Saint-Esprit du Seigneur élargit notre vision. Vous rappelez-vous du prophète Élisée qui trouva à son réveil la ville assaillie par l'armée syrienne avec ses chevaux et ses chars? Son serviteur, affolé, demanda à Élisée ce qu'il devait faire dans une telle situation. Élisa prononça ces mots marquants, lui ordonnant de ne pas s'inquiéter. « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Le serviteur n'avait aucune idée de ce que le prophète voulait dire. Il ne pouvait pas regarder au-delà de ce qu'il pouvait voir. Élisée, lui, voyait des bataillons d'anges prêts à défendre le peuple du prophète. Alors Élisée pria le Seigneur afin qu'il ouvrit les yeux du jeune homme, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Nous nous dissocions souvent des autres sous prétexte que nous voyons les choses différemment. Nous nous sentons plus à l'aise en compagnie de ceux qui pensent, parlent, s'habillent et agissent comme nous qu'avec ceux dont les milieux et les antécédents diffèrent des nôtres. En réalité, ne venons-nous pas tous de pays différents et ne parlons-nous pas des langues différentes? N'avons-nous pas tous une vision extrêmement limitée du monde en fonction de notre expérience de la vie? Car certains voient avec des yeux spirituels, comme le prophète Élisée, tandis que d'autres voient et communiquent selon ce que leurs yeux naturels perçoivent, comme le montre mon expérience avec le missionnaire analphabète. Nous vivons dans un monde qui se nourrit de comparaisons, de critiques et d'étiquettes. Au lieu de voir à travers le prisme des médias sociaux, nous devons rechercher plus profondément les attributs divins que nous possédons réellement. Ces qualités et aspirations divines ne peuvent pas être épinglées sur Pinterest ou postées sur Instagram. Accepter et aimer les autres ne signifie pas adhérer à leurs idées. Évidemment, la vérité réclame notre plus haut degré d'allégeance. Néanmoins, cela ne doit jamais nous retenir de manifester de la gentillesse. Aimer vraiment les autres requiert que nous acceptions continuellement les sincères efforts des gens dont nous ne pourrons jamais connaître complètement les expériences de la vie et les contraintes. Regarder au-delà de ce que nous pouvons voir exige un effort conscient pour se concentrer sur le Sauveur. Le 28 mai 2016, Beau Ritchie, âgé de 16 ans, et son ami Austin se trouvaient dans un ranch familial au Colorado. Beau et Austin montèrent dans leur véhicule tout-terrain, impatients à l'idée de passer une journée d'aventure. Ils n'avaient pas parcouru une grande distance qu'une situation dangereuse se présenta et qu'il s'ensuivit un événement tragique. Le véhicule de Beau bascula subitement, coinçant Beau sous plus de 180 kilos d'acier. Lorsqu'Austin, l'ami de Beau, s'approcha de lui, il le vit en grand péril. De toutes ses forces, il tenta de pousser le véhicule qui écrasait son ami, mais impossible de le bouger. Il fit une prière pour Beau, puis partit chercher désespérément de l'aide. Les services des urgences arrivèrent enfin, mais quelques heures plus tard, Beau décédait. Il était libéré de la condition mortelle. Ses parents, le cœur brisé, arrivèrent. Alors qu'il se trouvait dans le petit hôpital avec le meilleur ami de Beau et des membres de la famille, un officier de police entra dans la pièce et tendit le téléphone portable de Beau à sa mère. Lorsqu'elle prit le téléphone, une alarme sonna. Elle alluma le téléphone et vit l'alarme quotidienne de Beau. Elle lut à voix haute le message que son affectueux, joyeux et très aventureux adolescent s'était fixé le but de lire tous les jours. Il disait « Souviens-toi de mettre Jésus-Christ au centre de ta vie aujourd'hui. » La concentration de Beau sur son Rédempteur n'apaisa pas la tristesse de ses êtres chers en son absence. Néanmoins, cela donne beaucoup d'espoir et de sens à la vie de Beau et aux choix qu'il avait pris lorsqu'il était en vie. Cela permit à sa famille et ses amis de regarder au-delà du chagrin de sa mort vers les joyeuses réalités de la vie éternelle. Quelle tendre miséricorde pour les parents de Beau, de voir à travers les yeux de leur fils la chose à laquelle il accordait le plus de prix. En tant que membres de l'Église, nous avons été dotés d'alarmes spirituelles qui nous alertent lorsque nous ne regardons qu'avec nos yeux mortels et ne distinguons pas la source de notre salut. La Sainte Cène nous rappelle chaque semaine que nous devons nous concentrer sur Jésus-Christ, afin de nous souvenir toujours de lui et d'avoir toujours son esprit avec nous. Pourtant, il nous arrive parfois d'ignorer ces sentiments de rappel et d'alarme. Si nous mettons Jésus-Christ au centre de notre vie, il fera en sorte que nos yeux soient ouverts à de plus grandes possibilités que seuls nous ne pouvons comprendre. J'ai reçu cette lettre très intéressante au sujet d'une alarme de protection dont une sœur fidèle a fait l'expérience. Elle m'a écrit que lors d'une tentative pour aider son mari à comprendre ce qu'elle ressentait, elle s'était mise à tenir une liste électronique sur son téléphone des choses qu'il avait faites ou dites et qui l'avaient irritée. Elle pensait que lorsque le moment serait approprié, elle rédigerait une preuve écrite qu'elle lui présenterait et que cela le pousserait certainement à changer. Cependant, un dimanche, alors qu'elle prenait la Sainte Cène et se concentrait sur l'expiation du Sauveur, elle réalisa que consigner ses sentiments négatifs envers son mari l'éloignait de l'influence du Saint-Esprit et ne réussirait jamais à le changer. Une alarme spirituelle se déclencha dans son cœur qui disait « Lâche prise, laisse tout cela passer, efface ces notes, elles ne sont pas bénéfiques. » Elle écrit ensuite, et je la cite, « Cela me prit un certain temps de cliquer sur « Sélectionner tout » et encore plus longtemps pour « Effacer ». Mais lorsque je l'ai fait, tous ces sentiments négatifs disparurent. Mon cœur se remplit d'amour pour mon mari et d'amour pour le Seigneur. Comme Saul sur la route de Damas, sa vision était changée. Les écailles tombèrent de ses yeux. Notre Sauveur ouvre fréquemment les yeux des aveugles physiques ou spirituels. Ouvrir nos yeux à la vérité divine, au sens littéral et au sens figuré, nous prépare à être guéris de la faiblesse de notre vision mortelle. Lorsque nous prêtons attention aux alarmes spirituelles, nous signalons l'urgence de corriger notre cap ou d'élargir notre perspective éternelle. La promesse de la Sainte Cène d'avoir son esprit avec nous est accordée. C'est ce qui arriva à Joseph Smith et Oliver Cowdery dans le temple de Kirtland quand Jésus-Christ leur enseigna de grandes vérités et leur promit que le voile des limitations mortelles serait enlevé de leur esprit et que les yeux de leur entendement seraient ouverts. Je témoigne que par le pouvoir de Jésus-Christ, nous devenons capables de regarder spirituellement au-delà de ce que nous voyons physiquement. Si nous nous souvenons de lui et avons son esprit avec nous, les yeux de notre entendement seront ouverts. Alors notre cœur aura une perception plus profonde et plus réelle de la sublime divinité qui demeure en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions le Mormon Tabernacle Choir de la belle musique qu'il a interprétée ce matin, comme il le fait toujours. Notre dernier orateur sera Henry Ehring, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Oui, je crois en Christ », le numéro 71 dans le recueil des cantiques français. Ensuite, José Teixeira, des 70, fera la prière de clôture.
Mes chers frères et sœurs, je prie humblement pour que l'Esprit du Seigneur soit avec nous pendant que je parle aujourd'hui. J'ai le cœur rempli de reconnaissance envers le Seigneur, dont c'est l'Église, pour l'inspiration que nous avons perçue à l'occasion de cette conférence, dans les prières ferventes, les discours inspirés et les chants angéliques. En avril dernier, le président Monson a fait un discours qui a touché des cœurs dans le monde entier, y compris le mien. Il a parlé de la puissance du Livre de Mormon. Il nous a exhortés à étudier, méditer et appliquer ses enseignements. Il a promis que si nous consacrions du temps chaque jour à l'étudier et à y réfléchir, et si nous respections les commandements qu'il contient, nous aurions un témoignage essentiel de sa véracité et que le témoignage du Christ vivant qui en découlerait nous protégerait dans les moments de difficulté. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai considéré que les paroles du prophète étaient la voix du Seigneur à mon attention, et aussi comme beaucoup d'entre vous, j'ai décidé d'y obéir. Depuis mon enfance, j'ai le témoignage que le Livre de Mormon est la parole de Dieu, que le Père et le Fils sont apparus à Joseph Smith et lui ont parlé, et que des apôtres d'autrefois lui sont apparus pour restituer les clés de la prêtrise à l'Église du Seigneur. Avec ce témoignage, je lis le Livre de Mormon tous les jours depuis plus de 50 ans. J'aurais donc pu raisonnablement penser que les paroles du président Monson s'adressaient à quelqu'un d'autre. Pourtant, comme nombre d'entre vous, j'ai senti l'encouragement et la promesse du prophète m'inviter à faire un effort supplémentaire. Beaucoup d'entre vous ont fait ce que j'ai fait. Priez avec une attention accrue. Méditez plus intensément sur les Écritures et faites plus d'efforts pour servir le Seigneur et les autres de sa part. L'heureux résultat pour moi et pour beaucoup d'entre vous a été ce que le prophète avait promis. Ceux d'entre nous qui ont pris à cœur sa recommandation inspirée ont entendu l'Esprit plus distinctement. Nous avons trouvé plus de force pour résister à la tentation et avons ressenti une foi plus grande en Jésus-Christ ressuscité, en son Évangile et en son Église vivante. À une époque de tumulte croissant dans le monde, ces suppléments de témoignages ont chassé le doute et la crainte et nous ont apporté la paix. L'obéissance à la recommandation du président Monson a produit deux autres effets merveilleux chez moi. Premièrement, l'esprit qu'il avait promis a fait naître un sentiment d'optimisme pour ce qui nous attend, en dépit du tumulte qui semble s'accentuer dans le monde. Et deuxièmement, le Seigneur m'a donné, et à vous aussi, davantage conscience de son amour pour les personnes dans la détresse. Nous avons éprouvé un désir accru d'aller secourir les autres. Ce désir a été au cœur du ministère et des enseignements du président Monson. Le Seigneur a promis à Joseph Smith, le prophète, et à Oliver Cowdery de l'amour pour leur prochain et du courage lorsque les tâches auraient pu sembler écrasantes. Il a dit que ce courage nécessaire viendrait de leur foi en lui, leur roc. Ne craignez pas de faire le bien, mes fils, car tout ce que vous semez, vous le moissonnerez aussi. C'est pourquoi, si vous semez le bien, vous moissonnerez aussi le bien en récompense. Ne craignez donc pas, petit troupeau. Faites le bien. Laissez la terre et l'enfer s'unir contre vous. Car si vous êtes bâtis sur mon roc, ils ne peuvent vaincre. Voici, je ne vous condamne point. Allez et ne péchez plus. Accomplissez avec sérieux l'œuvre que je vous ai commandé d'accomplir. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Voyez les plaies qui ont percé mon côté et aussi les marques des clous dans mes mains et mes pieds. Soyez fidèles, gardez mes commandements et vous hériterez le royaume des cieux. Le Seigneur a dit aux dirigeants du rétablissement, ainsi qu'à nous, que lorsque nous nous tenons avec foi sur son roc, le doute et la crainte sont atténués. Le désir de faire le bien augmente. Lorsque nous acceptons l'invitation du président Monson d'implanter dans notre cœur un témoignage de Jésus-Christ, nous recevons la force, le désir et le courage d'aller secourir les autres, sans nous soucier de nos besoins. J'ai vu cette foi et ce courage de nombreuses fois, lorsque des saints des derniers jours engagés ont affronté des épreuves redoutables. Pour vous donner un exemple, je me trouvais en Idaho le 5 juin 1976, lorsque le barrage sur la rivière Teton a cédé. Un mur d'eau est tombé. Des milliers de personnes se sont enfuies de chez elles. Des milliers de maisons et d'entreprises ont été détruites. Miraculeusement, moins de 15 personnes ont été tuées. Ce que j'ai vu là-bas, je le vois chaque fois que des saints des derniers jours se tiennent fermement sur le roc d'un témoignage de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne doutent pas qu'il veille sur eux, ils deviennent intrépides. Ils font abstraction de leurs propres épreuves pour se porter au secours des autres. Et ils le font par amour pour le Seigneur, ne demandant aucune récompense. Par exemple, lorsque le barrage sur la Teton a cédé, un couple de saints des derniers jours était en voyage à des kilomètres de chez lui. Dès qu'ils ont entendu la nouvelle à la radio, ils se sont dépêchés de rentrer à Rexburg. Au lieu d'aller chez eux constater les dégâts sur leur maison, ils sont partis à la recherche de leur évêque. Il se trouvait dans un bâtiment converti en centre de secours. Il organisait le travail des milliers de bénévoles qui arrivaient dans des bus scolaires. Le couple a demandé à l'évêque, « Nous venons juste de rentrer. Dites-nous qui et où nous pouvons aider. » Il leur a donné le nom d'une famille. Maison après maison, ce frère et sa femme ont aidé à déblayer la boue et l'eau. Ils ont travaillé du matin au soir pendant des jours. Ils ont enfin fait une pause pour aller voir leur maison. Elle avait été emportée par l'inondation. Il n'y avait rien à nettoyer. Alors, ils sont vite retournés voir leur évêque. Ils lui ont demandé, « Qui d'autre pouvons-nous aider ?» Ce miracle de courage et de charité, l'amour pur du Christ, exercé dans la discrétion, s'est répété au fil des années et dans le monde entier. On l'a vu à l'époque terrible des persécutions et des épreuves, au Missouri, du temps de Joseph Smith, le prophète. On l'a vu lorsque Brigham Young a conduit l'exode de Nauvoo et a ensuite appelé les saints à s'installer dans des lieux désertiques dans tout l'ouest des États-Unis pour s'entraider afin de créer Sion pour le Seigneur. En lisant ces journaux de ces pionniers, on voit le miracle de la foi, chassant le doute et la crainte. Et on lit l'histoire de saints oubliant leur intérêt personnel, afin d'aider quelqu'un d'autre pour le Seigneur, avant de retourner auprès de leurs moutons ou dans leurs champs non encore labourés. J'ai vu ce même miracle il y a quelques jours à peine, à la suite de l'ouragan Irma, à Porto Rico, à Saint-Thomas et en Floride, où les saints des derniers jours s'étaient associés à d'autres églises, communautés locales et organisations nationales pour participer au travail de nettoyage. Tout comme mes amis de Rexburg, un couple non-membre de Floride s'est attaché à aider la communauté au lieu de s'occuper de sa propre maison. Lorsque des voisins, membres de l'église, offrirent leur aide pour dégager les deux énormes arbres bloquant son allée, ce couple expliqua qu'il avait été bouleversé par la situation et s'était tourné vers les autres, sachant que le Seigneur fournirait l'aide nécessaire pour sa maison. Le mari précisa également que sa femme et lui avaient prié avant que les membres de l'Église n'arrivent et proposent leur aide. Ils avaient reçu la réponse que de l'aide arriverait. Elle arriva très peu de temps après qu'ils ont reçu cette assurance. J'ai entendu dire que certaines personnes commencent à appeler les membres de l'Église qui portent les t-shirts jaunes, des mains serviables, les anges jaunes. Une sœur de l'Église a apporté sa voiture au garage et le garagiste lui a raconté l'expérience spirituelle qu'il avait eue lorsqu'un groupe de personnes portant des t-shirts jaunes ont débarrassé les arbres tombés dans son jardin et lui ont ensuite chanté « Je suis enfant de Dieu ». Une autre habitante de Floride, qui n'est pas de notre foi, raconte que les membres de l'Église sont venus chez elle alors qu'elle travaillait dans son jardin dévasté, se sentant dépassée par l'ampleur de la tâche, en sueur et au bord des larmes. Selon ses dires, les bénévoles ont produit un véritable miracle. Ils l'ont aidée avec diligence, avec le sourire et avec humour, n'acceptant rien en retour. J'ai été témoin de cette diligence et j'ai entendu ses rires tard un samedi soir, alors que je rendais visite à un groupe de saints des derniers jours en Floride. Les bénévoles ont cessé leur travail de déblaiement des décombres suffisamment longtemps pour me permettre de serrer quelques mains. Ils m'ont dit que la veille au soir, 90 membres de leur pieu de Géorgie avaient monté un projet pour participer au sauvetage en Floride. Ils avaient quitté la Géorgie à 4 heures du matin, avaient roulé pendant des heures, avaient travaillé toute la journée, jusque tard dans la soirée, et prévoyaient de continuer le lendemain. Ils racontaient tout cela dans la bonne humeur et avec le sourire. Le seul stress que j'ai perçu, c'est qu'ils voulaient qu'on cesse de les remercier pour pouvoir se remettre au travail. Le président de Pieux avait redémarré sa tronçonneuse et travaillé sur un arbre abattu, et un évêque déplaçait des branches lorsque nous sommes remontés dans notre véhicule pour aller voir l'équipe de secours suivante. Un peu plus tôt dans la journée, alors que nous quittions un site, un homme s'est avancé vers la voiture, a ôté son chapeau et nous a remerciés pour les bénévoles. Il a dit « Je ne suis pas membre de votre église. Je n'arrive pas à croire ce que vous avez fait pour nous. Que Dieu vous bénisse. » Un bénévole de l'église debout à côté de lui a souri et a haussé les épaules, comme pour dire qu'il ne méritait pas d'éloge. Tandis que les bénévoles de Géorgie étaient venus aider cet homme qui n'arrivait pas à le croire, des centaines de saints des derniers jours de cette partie très dévastée de la Floride étaient partis à des centaines de kilomètres vers un autre endroit de l'État encore plus touché, d'après ce qu'ils avaient appris. Ce jour-là, je me suis rappelé, j'ai mieux compris les paroles de Joseph Smith, le prophète. Un homme rempli de l'amour de Dieu ne doit pas se contenter de chercher le bien de sa famille. Il parcourt le monde entier cherchant à faire du bien à tout le genre humain. Partout, nous voyons un amour semblable dans la vie des saints des derniers jours. Chaque fois qu'un événement tragique se produit n'importe où dans le monde, les saints des derniers jours font des dons financiers et se portent volontaires auprès des services humanitaires de l'Église. Il est rarement nécessaire de lancer un appel. En fait, parfois, nous sommes obligés de leur demander d'attendre, avant de se rendre sur les lieux, que les personnes qui dirigent les secours soient prêtes à les recevoir. Ce désir de faire du bien est le fruit de leur témoignage de Jésus-Christ, de son Évangile, de son Église rétablie, et de son prophète. C'est la raison pour laquelle le peuple du Seigneur ne doute pas et ne craint pas. C'est la raison pour laquelle des missionnaires proposent leur service partout dans le monde. C'est la raison pour laquelle les parents prient avec leurs enfants pour les autres. C'est la raison pour laquelle les dirigeants exhortent leurs jeunes à prendre à cœur la demande du président Monson de s'immerger dans le livre de Mormon. Le fruit ne vient pas de l'exhortation de leurs dirigeants, mais de la démarche de foi des jeunes. La mise en œuvre de cette foi, qui exige des sacrifices désintéressés, produit le changement de cœur qui leur permet de ressentir l'amour de Dieu. Cependant, notre cœur ne reste changé que si nous continuons de suivre les recommandations du prophète. Si nous cessons d'essayer, après un effort intense mais momentané,
le changement s'estompe. Les saints des derniers jours fidèles ont fait grandir leur foi au Seigneur Jésus-Christ, en l'authenticité du livre de Mormon et au rétablissement des clés de la prêtrise dans sa véritable Église. Ce témoignage accru leur a donné plus de courage et plus de sollicitude pour les autres enfants de Dieu. Mais les difficultés et les possibilités qui nous attendent exigeront encore davantage d'efforts. Nous ne pouvons pas prévoir les détails, mais nous connaissons l'idée générale. Nous savons que dans les derniers jours, le monde sera en tumulte. Nous savons qu'au milieu des difficultés, quelles qu'elles soient, le Seigneur dirigera les saints des derniers jours fidèles dans la proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ à toute nation, famille, langue et peuple. Et nous savons que les vrais disciples du Seigneur seront dignes de recevoir leur Sauveur lorsqu'il reviendra et s'y seront préparés. Nous n'avons pas à craindre. Quelle que soit la somme de foi et de courage que nous avons amassée dans notre cœur, le Seigneur attend davantage de nous et des générations après nous. Elles auront besoin d'être plus fortes et plus courageuses parce qu'elles feront des choses encore plus grandes et encore plus dures que celles que nous avons faites. Et elles affronteront une opposition croissante de la part de l'ennemi de notre âme. Le Seigneur a indiqué la voie qui mène à l'optimisme pendant que nous avançons. Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Le président Monson nous a dit comment faire. Nous devons méditer sur le livre de Mormon et les paroles des prophètes et les mettre en pratique. Prions sans cesse. Croyons. Servons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force. Nous devons prier avec toute l'énergie de notre cœur pour avoir le don de la charité, l'amour pur du Christ. Et par-dessus tout, nous devons suivre la recommandation de notre prophète avec constance et persévérance. Lorsque le chemin est difficile, nous pouvons compter sur la promesse du Seigneur, la promesse que le président Manson nous a rappelée souvent en citant ces paroles du Sauveur. Et là où quiconque vous reçoit, je serai aussi, car j'irai devant votre face. Je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Je témoigne que le Seigneur va devant votre face chaque fois que vous êtes en mission pour lui. Parfois, vous serez l'ange que le Seigneur envoie pour soutenir autrui. Parfois, vous serez celui qui est entouré d'anges qui le soutiennent. Mais vous aurez toujours son esprit dans le cœur, comme cela vous est promis à chaque réunion de Sainte-Seine. Tout ce que vous avez à faire, c'est respecter ses commandements. Les plus beaux jours du royaume de Dieu sur la terre sont encore à venir. L'opposition affermira notre foi en Jésus-Christ, comme cela a été le cas depuis l'époque de Joseph Smith, le prophète. La foi l'emporte toujours sur la crainte. Faire front ensemble produit l'unité. Et vos prières pour les personnes dans le besoin sont entendues et exaucées par un Dieu aimant. Il ne sommeille ni ne dort. Je témoigne que Dieu le Père vit et veut que vous reveniez auprès de lui. Nous sommes la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ. Il vous connaît, il vous aime et il veille sur vous. Il a expié vos péchés, les miens et ceux de tous les enfants de notre Père Céleste. Le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est de le suivre par la manière dont vous vivez et en servant autrui. J'en témoigne et je vous donne ma bénédiction et vous exprime mon amour au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher Père Céleste, nous te remercions, Père, pour l'Évangile de Jésus-Christ. Nous te remercions, Père, pour les temples dans le monde. Nous te remercions pour le jour du sabbat. Et nous te remercions pour la bonté des membres de l'Église. Nous te prions, Père, que notre esprit soit béni avec plus de compassion pour nos semblables, qu'ils aient plus de désir de chercher nos ancêtres, d'emmener leur nom au temple, que nous ayons plus de désir de vivre et de partager l'Évangile de Jésus-Christ, que nous puissions nous réjouir à trouver la lumière, à observer le jour du sabbat, à l'église et à la maison. Nous sommes reconnaissants pour notre prophète et nous te demandons de le bénir. Nous prions pour ces choses, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 187e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.